J'aimerais partager avec vous ce matin un thème qui est lié à un verset qui a pour moi été toujours un verset, une parole forte et en même temps un mystère. C'est cette parole de Dieu s'adressant à Israël dans le Deutéronome, chapitre 30, verset 19, qui dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est une parole qui est assez forte et en même temps, a priori, qui pourrait être une parole qui relève de l'absurdité. Je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort, choisis la vie. Et on a l'impression de dire, c'est une évidence. J'aime beaucoup le livre du Deutéronome, en ce qu'il est ce rappel de la loi au peuple d'Israël qui se présente pour la seconde fois devant la terre promise. Et en ce sens, ce verset du chapitre 30, verset 19, devait résonner de manière particulière aux oreilles du peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce que Dieu avait, en son temps, libéré le peuple d'Israël, l'avait fait traverser la mer Rouge à pied sec, l'avait amené au pied du mont Sinaï, lui avait donné ses commandements et lui avait fait faire la route jusqu'à la terre promise. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et quand le peuple juif est arrivé devant la terre promise, il a dit, nous choisissons la malédiction et la mort. C'est cela. Ils ont dit. Parce qu'en refusant de rentrer dans la terre promise, parce qu'il y avait des géants, parce qu'il y avait des difficultés, parce que la terre promise, et ils le disent eux-mêmes, était un pays où coule le lait et le miel. Mais il y a des géants. Mais nous ne serons pas assez forts. Mais comment Dieu pourrait-il nous aider à nous emparer de cette terre promise ? Nous choisissons la malédiction et la mort. Et c'est ce qui s'est produit. Ils sont entrés dans le désert, et là, Dieu a attendu 40 ans que toute la génération qui avait fait ce choix meure véritablement dans le désert. Et quand le Deutéronome est donné, il est donné à cette nouvelle génération. C'est Moïse qui, sur l'ordre de l'Éternel, redonne à la nouvelle génération qui se présente devant la terre promise la loi de l'Éternel. Le Deutéronome, c'est un rappel de la loi. Une manière de dire, écoutez, vous êtes là, vous ne devez pas vivre sur la foi de vos parents. Et en plus, vous ne devez pas vivre sur le modèle de vos parents qui sont morts dans le désert. Moi, je pense que la nouvelle génération se dit, on ne fait pas deux fois la même erreur. Ils ont entendu la loi, ils se sont dit, on rentre dans le pays. Et là, ils ont fait le choix de la vie. Ils ont fait le choix de la bénédiction. Vous me direz, c'est un modèle, et il y a beau jeu de se gausser de l'attitude, ou en tout cas, de pointer du doigt l'attitude du peuple d'Israël. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas différents. Et Dieu nous donne aussi ce choix de choisir entre la vie et la mort, et la bénédiction et la malédiction. Pas seulement au moment de notre conversion. Mais dès que nous franchissons et que nous rentrons dans le royaume de la vie, nous aurons des choix à faire pour choisir continuellement la vie. J'aime beaucoup, dans l'exemple d'Israël, le fait qu'il y a eu deux tribus qui disent, on est d'accord, on se présente devant la terre promise pour la seconde fois, on est d'accord, mais tu sais, Moïse, les terres qui sont avant la terre promise nous intéressent beaucoup plus. Alors Moïse leur dira de la part du Seigneur, d'accord, vous aurez ces terres-là, mais vous devrez rentrer et combattre avec vos frères. J'aime beaucoup cet exemple-là parce qu'il nous dit aussi qu'ils ont vu la terre promise. Ils ont cru dans les promesses de l'Éternel, mais ils sont restés en deçà. Et je pense qu'il y a là un modèle aussi pour nous croyants, du fait de rentrer dans le salut de Dieu et de ne pas rentrer totalement dans les promesses et dans la vie et les bénédictions de Dieu. on peut rester à la frontière. Regarder de loin et dire, waouh, qu'est-ce qu'il est bien ce pays. Qu'est-ce qu'elle est belle cette terre promise. Puis regarder, hein, sur les portes du temple, il y avait à une certaine époque une fresque en or qui représentait les deux espions qui revenaient de la terre promise avec une grappe de raisin portée sur un bâton. Tellement elle était grosse, imposante. Et c'était le reflet de cette terre promise. Et c'était là une image de regarder les promesses, le pays où coule le lait et le miel. Et il y avait ces deux tribus qui pouvaient se dire, waouh, quel pays! Comme il y a aujourd'hui des chrétiens qui regardent les promesses de Dieu, qui se disent, waouh, qu'est-ce que c'est bien! C'est merveilleux ce que Dieu promet. C'est extraordinaire la vie à laquelle il nous appelle. Mais on va quand même rester en deçà. On va quand même rester, on ne va pas rentrer dans la terre promise, parce que ce qu'il y a avant dans ce monde, là, cette terre fertile, là, ces plaisirs, là, cette liberté de faire ce que je veux, eh bien, ça me suffit. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Et ce verbe en hébreu, bakar, est dans une forme impératif, un radical. Forme grammaticale, le radical en hébreu, c'est un impératif en français. Choisis la vie. C'est pas, ce serait une bonne chose, tu sais, que tu choisisses la vie. Réfléchis un peu, tu sais, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à rentrer dans la terre promise. Oui, je comprends ce que tu vis aujourd'hui, ça te satisfait, mais peut-être que si tu franchissais la frontière, si tu disais oui à Dieu ce matin, Dieu a parlé, et la réponse, elle est simple. Est-ce que tu veux passer de l'autre côté? Le passage de l'autre côté, il dépend d'une seule chose. Oui. Nous travaillons avec les patientes du centre sur cette notion du oui. Le oui qui peut faire basculer en termes de thérapie mon fonctionnement par rapport à la toxicomanie. Et on projette souvent un film que j'aime beaucoup, et que nous aimons beaucoup au niveau des soignants, c'est le film « Oui, mais ». Parce que quand on dit « Oui, mais », on introduit déjà le fait que nous sommes dans un non, et que nous n'allons pas aller au-delà. Oui, cette terre promise est merveilleuse. Oui, la vie avec Christ est fantastique. Mais, non, c'est parfois des tout petits mais des mais qui nous empêchent de rentrer dans les promesses de Dieu, de nous donner entièrement. Et Dieu respecte nos mais. Même s'il est impératif en disant « Choisis !» Mais il dit « Choisis la vie !» comme quelqu'un qui est un père et qui dit à ses enfants « Je veux tellement le meilleur pour toi aujourd'hui !» Je veux tellement que tu goûtes à toutes les promesses qui se trouvent en Jésus-Christ. Je veux tellement que tu vives en nouveauté de vie, que tu sois guéri, libéré, affranchi du péché, rentrant dans mes promesses, grandissant, t'épanouissant en Christ. Voilà ce que je... Choisis la vie! Oui, mais... Ces derniers jours, nous avons, en réunion de prière, utilisé ou rencontré cette notion-là avec David, le roi David. Il y a Laurent qui nous a apporté une méditation. On est parti d'un psaume avec le roi David. On est venu à parler de son choix. Et je me suis dit, tiens, choisir la vie. Je trouvais que c'était un homme qui était le reflet de quelqu'un qui choisissait la vie, malgré ses imperfections, malgré ses trahisons, malgré, je dirais, ses attitudes et ses comportements qui n'avaient rien de spirituel, mais il a toujours fait le choix de choisir la vie. Alors, la première chose qui est venue à ma réflexion lorsque je regardais le roi David, il y a plein de choses qu'on pourrait tirer de sa vie, de son comportement, de sa relation avec Dieu. La première chose, je crois, en parlant du choix, de choisir la vie, c'est que David a choisi de se voir avec les yeux de Dieu. Il a choisi de se voir avec les yeux de Dieu. Vous savez, savoir qu'on est choisi par Dieu, ça nous renvoie quelque chose de fort. Donc je suis aimable. Donc je suis important pour Dieu. Et David, la première chose qu'il a peut-être vécue, c'était de choisir de se voir non pas avec ses propres regards, son propre regard, non pas par rapport au regard de son père Isaïe, qui était quand même un regard assez négligent vis-à-vis de son plus jeune fils, mais il a choisi de croire dans ce Dieu qui le regardait, et il a choisi de se voir avec les yeux de Dieu. J'ai envie de dire, à travers quel regard est-ce que j'existe ? À travers quel regard est-ce que tu existes ? Est-ce que c'est le regard d'Isaïe, de ton père, de ta mère ? Est-ce que c'est le regard de ton patron ? Il y en a une qui se dit non ici. Est-ce que c'est le regard de ton conjoint ? Est-ce que tu choisis de dépendre du regard de ton conjoint ? Ou est-ce que tu choisis de te voir selon le regard que Dieu porte sur toi, qui est un regard d'amour, de compassion, d'encouragement. David était confronté dans une situation un peu particulière dans le livre de Samuel, au chapitre 16, versets 6 et 13. On va le lire ensemble. 1 Samuel 16, versets 6 à 13. Samuel est envoyé par Dieu dans une famille à Bethléem. Ça vous dit quelque chose, Bethléem ? C'est une petite ville, une petite bourgade, guère plus grande que Kevin aujourd'hui, et une bourgade où il s'est passé, il y a environ 2000 ans, quelques événements qui nous reviennent en mémoire, en général autour du 24 décembre, et que la France oublie à partir du 1er janvier, voire du 31 décembre. Samuel est envoyé à Bethléem parce que Dieu avait choisi un roi. Pourquoi avait-il choisi un roi ? Parce qu'Israël avait dit ceci : nous voulons avoir un roi comme les autres. L'Égypte a Pharaon, les autres nations tout autour ont chacune un roi. Nous voulons un roi. Et Dieu avait averti le peuple d'Israël en leur disant qu'un roi dominerait sur eux et leur imposerait sa volonté, ce qu'il désirait, lui. Le Dieu d'Israël, c'était de régner directement sur son peuple. Et vous savez qu'a dit le peuple ? Il a dit, nous voulons voir celui qui nous dirige. Nous voulons le voir. Ah, c'est tellement bien quand on voit celui qui nous dirige. Est-ce que vous aimeriez voir Emmanuel Macron ? Pas forcément. Pour le voir hier, fallait être dans les Pyrénées. Parce que si vous êtes à Lorient, vous ne pouvez pas le voir, sauf à la télévision. Mais si vous voulez le voir de visu, vous ne pouvez pas. C'est l'aspiration des hommes de ce monde, c'est de voir quelqu'un qui les dirige, d'avoir... qu'est-ce que j'aime ce mot. Michel aussi, nous sommes amoureux de ce mot. De voir le leader. Rien que de le dire, ça me... De voir un leader, on est derrière lui, on le voit, on le suit. Ah, il n'y a qu'un seul leader, il n'y a qu'une seule tête, c'est Christ. Les leaders sur cette terre, même dans l'Église, j'y crois pas beaucoup. Mais Israël voulait un roi. Alors Dieu avait envoyé Samuel qui avait choisi selon la pensée de Dieu, Saül, le premier roi. Et puis Saül, au bout de 2 ans, ça n'a pas duré longtemps, au bout de 2 ans, il a commencé à marcher à côté de ses chaussures, et puis à désobéir à Dieu, jusqu'au jour où Dieu décide de rejeter Saül. Et il dit à Samuel, eh bien voilà, j'ai choisi quelqu'un, je vais t'envoyer pour que tu lui donnes l'onction. Alors Samuel s'en va et se rend à Bethléem, et puis il arrive à Bethléem, et là il y a les habitants de Bethléem, j'aime beaucoup ce passage. Il commence à trembler en voyant arriver Samuel, en disant, il y a un problème. On n'aime pas quand le prophète arrive. Hein. Hein, attends, tu es là, il y a des soucis, il y a des difficultés, on va se faire taper sur les doigts. Et puis Samuel dit, non, 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 je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et au verset 6, il est dit, lorsqu'ils arrivèrent, il se dit en voyant Eliab, donc le fils aîné d'Isaïe, il lui dit, ah, Eliab, ah, certainement, le Messie de l'Éternel est ici devant lui. Fils aîné, costaud, beau. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et l'Éternel dit, non, Samuel dit, non, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'entre eux. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et il répondit, si, il reste encore le petit. Ah! Il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit, va donc chercher, car nous ne nous installerons pas pour le sacrifice et le partage de ce sacrifice avant qu'il ne vienne ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était roux. Je ne sais pas si c'était un défaut ou un avantage. Il était roux. Il se distinguait avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. Samuel se leva et s'en alla de Rama. C'est un texte qui nous montre une chose. Nous sommes choisis par Dieu et un Dieu qui nous regarde avec son regard de compassion et d'amour. Lorsque Samuel est devant les 7 frères et sœurs, il y a les trois aînés, Eliab, Abinadab et Shama, qu'on retrouvera plus tard, et qui sont là, et à chacun défile, et à chaque fois Dieu dit non. Et pourtant Samuel était là avec un regard d'homme, il disait, mais l'aîné, il a le profil. Ça me fait penser quand je fais mes recrutements de personnel, et que j'ai 5, 6, 7, 8 personnes, et parfois, je dis, celle-là, elle a le profil. Je disais récemment, je me trompe 1 fois sur 10. Quand je me trompe, ça peut avoir des conséquences durables. Quand on se trompe, on peut imaginer en se fiant à l'apparence, à l'attitude, aux paroles. Ça. Il a le profil. Et Samuel n'est pas différent de Jean-Marc Manteau. Il peut se fier aussi aux apparences. Et quand il voit Eliab, il dit, c'est certainement le Messie de Dieu, celui-là. Non, pas celui-là. Ni celui-là, ni celui-là. Voir avec les yeux de Dieu. Le peuple disait, nous voulons voir notre roi. Mais ce qu'ils voyaient, c'est avec le regard d'homme, l'attitude, le comportement, ce qui était visible. Mais l'Éternel regarde au cœur. Moi, j'aime bien cela. Parce que David, le fils oublié, est celui qui est choisi par Dieu. Le regard de Dieu s'arrête sur David. Ça me rassure. Parce que là, on est aussi sur quelque chose qui est de l'ordre du comportement de Dieu. Samuel est allé à Bethléem. Envoyé pour choisir celui qui serait le Messie de Dieu. À Bethléem, le Messie de Dieu. À Bethléem, le Messie de Dieu. 1000 ans avant sa naissance, celle de Christ. Presque 700 ans avant la naissance de Christ, où un prophète a dit, un certain Ésaïe, il s'est élevé de cette terre comme un arbre desséché. Il n'avait ni apparence, ni éclat. Il était méprisé. C'est cela que voyaient les hommes. Lorsqu'ils ont vu ce Jésus, né à Bethléem, il n'avait ni apparence, ni éclat. C'est la manière de Dieu de faire son choix. Samuel, lui, était encore, avec ce regret profondément ancré en lui, il était toujours consterné par le rejet de Saül. Et pourtant, il est amené à choisir le plus petit, à l'oindre d'huile. Et ce que Dieu dit à Samuel, c'est « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Remplis ta corne d'huile et pars ! Je t'envoie chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » J'ai vu, Dieu voit. Et vous savez, ce matin, Dieu est au milieu de nous. Et il voit. Et il voit. Il te voit. Il te voit. Il te voit. Il te voit. Il me voit. Ah, il ne voit pas des savants. Il ne voit pas des hommes et des femmes qui sont brillants aux yeux de ce monde, mais il voit en chacun d'entre nous des hommes et des femmes qu'il appelle. Qu'il appelle. Et qui ont à choisir. Tout au long de leur vie avec Christ, nous aurons à choisir, à dire et à répéter des oui ou des non. Est-ce que je te dis oui, Seigneur, ou est-ce que je te dis non ? Dieu avait vu en David un roi qui lui plaisait. Dieu voit ce matin en chacun d'entre nous un fils de roi, une fille de roi qui lui plaît. Est-ce que tu as conscience de cela ce matin ? Est-ce que tu as conscience que Dieu te regarde et dit « Je vois en toi un fils de roi, une fille de roi qui me plaît. Mais je n'ai rien, Seigneur. Regarde Eliab, regarde Aminadab, regarde Shammah, ils sont plus forts que moi. Je te vois et ce que je vois en toi, ce que j'ai déposé en toi est précieux à mes yeux et tu me plais. Dieu n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et l'Éternel, ce matin, regarde ton cœur. Qu'est-ce qu'il voit ? Il vient pour te donner l'onction. Qu'est-ce que tu dis ? Je choisis la vie, je choisis la mort. La mort peut-être, non pas la perte du salut, mais la mort de ce qui pourrait advenir. Je suis très fan des westerns. Il y a une citation, il y a Clint Eastwood dans Impitoyable, qui est un tueur à gages, et puis il est avec un disciple, on va dire ça comme ça, qui veut devenir tueur à gages, et le disciple lui demande, mais qu'est-ce que ça fait de tuer un homme ? Il dit, tuer un homme, c'est terrible, parce que tu lui enlèves la vie, mais pas seulement. Alors l'autre l'écoute, il dit, ah bon ? On ne lui enlève pas seulement, non. Tu lui ôtes tout ce qu'il aurait pu devenir. Et la mort qui est contenue dans nos noms, non à Dieu, non à ce qu'il nous demande, c'est accepter la mort de ce qui pourrait devenir de nous dans ce monde. Pensons à ce qu'enclenche le nom. Je te dis non, Seigneur, je ne veux pas. J'ai, je sais plus, 44, 45 ans de vie chrétienne, quelque chose comme ça. 46, peut-être. Je sais plus, je compte plus. Mais avec Michel, on peut se dire, on a croisé tellement d'hommes et de femmes sur notre route, tout au long de ces décennies, qui ont dit oui à Dieu, et pour lesquels on peut se réjouir aujourd'hui de voir ce qu'elles ont vu de Dieu, ce qu'elles ont vécu avec Dieu. En 40 ans, je peux vous assurer, une femme comme Françoise Carenas, qui est la missionnaire que nous soutenons, on l'a connue quand elle était traductrice au collège biblique, où elle traduisait depuis le danois en français. Et puis, est-ce que c'était la pensée de Dieu pour elle d'être traductrice? Et Dieu lui a dit, écoute, tu es bien confortablement installée à Kolding? Ouais. Tu es reconnue? Ouais. Tu te plais? Ouais. Ben voilà, je vais te demander de quitter tout ce confort, de te former à la traduction de la Bible et à partir en Afrique, dans des lieux complètement désertiques où tu seras toute seule. Qu'auriez-vous dit? Elle a dit oui. Elle a dit oui. Elle a appris comment traduire la Bible dans une langue qui lui était étrangère. Elle est partie en Afrique et dans une tribu où je crois qu'il y avait au moins 100 km pour rejoindre une grande ville où il y avait des Européens, dans un village à s'y installer. Elle a appris la langue d'une ethnie qui s'appelait le Naodem. Et elle a, une fois qu'elle a appris la langue, elle a fabriqué un abécédaire et elle a traduit la Bible pour ce peuple-là. C'est un oui qui a changé des vies, qui a ouvert la parole de Dieu. Quels seront tes oui? Aujourd'hui, Dieu te parle. Il te dit aussi à toi aujourd'hui, quels sont les plans que j'ai pour toi? Quelles sont les pensées? Oh non, Seigneur. S'il n'y a pas une FNAC à 10 km, moi je pars pas. Hein. Si je n'ai pas au moins la télévision avec le satellite, je pars pas. Si, si, si. On a tellement de bonnes raisons de dire non à Dieu. Et alors, la mort rentre dans ce qui aurait pu être vivant en nous. Vivant en nous, c'est la pensée de Dieu. Ah. Dieu regarde au cœur. Je suis un cinéphile, vous l'avez deviné. Ouais. Il y a un film que j'ai beaucoup aimé, c'était Avatar. Je ne sais pas si certains connaissent. Et Avatar, ça vient de la religion hindoue, hein, quand même, faut le savoir. C'est quand un dieu prend une forme humaine. Mais dans Avatar, il y a un moment donné où un homme prend une forme d'une autre créature et vit avec ce peuple. Et à un moment donné, l'héroïne, qui n'avait pas vu au-delà de l'apparence, touche le cœur de son ami, qui deviendra son bien-aimé. Elle touche, elle le regarde dans les yeux et dit, je te vois. Je te vois. J'aime beaucoup ce passage. Voir l'autre tel qu'il est, pas dans son apparence, mais voir l'autre tel qu'il est. Dieu te dit ce matin, je te vois. Je te vois avec tes fragilités, avec tes blessures. Je te vois. Je te vois avec tes capacités, avec tes forces, je te vois et je te choisis. Choisir son avenir dépend des choix que nous faisons. Je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. Quelle direction donnons-nous? Choisir son avenir. David, c'était un simple berger, gardait des moutons. Il a reçu l'onction. Il est allé à la cour du roi Saül. Et quand Saül est parti à la guerre pour combattre les Philistins, eh bien, David est retourné chez son père pour garder les moutons. David, il n'avait pas demandé à être roi. Je suis certain que parmi vous, si je demandais qui a rêvé d'être roi, enfant peut-être, les petites filles avec une robe de princesse et une couronne, ou les petits garçons, les princes avec l'épée. Hein, vous voyez déjà les attributs qu'on attribue aux filles et aux garçons. Déjà, on n'est pas sexiste, mais, hein, mais on a peut-être rêvé de ça. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a l'espérance, le rêve, la croyance d'être fils de roi? David ne l'avait pas, il n'avait pas de demande. Mais il a fait des choix qui l'ont conduit à être fils de roi. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la même chose se pose pour nous. Est-ce que nous voulons choisir notre avenir? Michel dira, moi, j'ai pas loin de 70 ans, j'en approche, mon avenir, est-ce que j'ai encore un avenir à choisir? Si. Laurent aussi, il a un avenir en Christ. Et il a des choix à faire qui lui diront, ben voilà, est-ce que tu choisis encore deux? Et puis les plus jeunes, et les moins jeunes, ou les plus vieux. Nous avons tous à choisir notre avenir. Car je connais, dit le prophète Jérémie, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est la pensée de Dieu. Pour toi, ce matin. Oui, mais je connais les projets que j'ai formés sur vous. Quand Dieu a envoyé Samuel, il a dit « Je connais les projets que j'ai pour David. » Ah, choisir son avenir en disant oui à Dieu. Alors qu'il est auprès du roi Saül, ses trois frères aînés, toujours les mêmes, hein, Eliab, Abinadab et Shammah, les trois frères aînés partent combattre les Philistins. Et ils partent pour soutenir le roi Saül, qui est déjà un roi réprouvé. Je me dis, c'est quand même... Les frères aînés, ils sont quand même un peu durs de la comprenette. Hein. Samuel est rentré chez eux. Il venait pour donner l'onction au futur roi d'Israël. Ils sont passés devant et sous le regard de Samuel, qui était convaincu que l'un d'entre eux serait roi. Puis Dieu dit non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Lui. Et au milieu des frères, le huitième, David, est choisi. Et pourtant, il continue à soutenir Saül. Était-il obligé ? Mais en tout cas, leur comportement, quand ils voient leurs frères venir au camp où se trouve le champ de bataille, ça démontre qu'ils n'ont pas vraiment compris ce qui se passait. En opposition avec David, en réactivité, ils soutiennent Saül. Et Isaïe décide d'envoyer son fils. On le voit dans le chapitre 17, verset 13. David s'en alla de chez Saül pour aller faire paître les troupeaux. Et son père lui dit, prends cet épha de grain et porte-les vite à tes frères dans le camp. Porte-les vite à tes frères dans le camp. Ça ne vous rappelle rien, ça ? Il y a un autre personnage de la Bible dont le père lui a dit, écoute, j'aimerais que tu ailles voir la paix de tes frères, s'ils sont en paix. Un autre père qui a dit, voilà, je m'inquiète pour mes fils. Et cet homme, c'était Jacob, et le fils, c'était Joseph. Va donc voir tes frères s'ils vont bien, s'ils sont en sécurité. Moi, j'aime beaucoup ces deux récits parce qu'ils nous parlent de la sollicitude d'un père vis-à-vis de ses enfants. Les deux, Jacob et Isaïe, ont un fils particulier, choisi par Dieu, Joseph, David. Et les deux pères disent, va donc voir tes frères. Ils ont beau faire de mauvais choix, avoir de mauvais comportements, mais va voir tes frères. Un jour, dans le ciel, le père a dit au fils, va donc voir tes frères. Va donc les voir pour voir comment ils vont, pour leur donner du pain. Hein ? Le pain vivant descendu du ciel. Les éphas de grain, ce n'était jamais que du pain, ou en tout cas ce qui permettait de faire le pain. Va donc voir, je voudrais que tu prennes soin d'eux. Et le fils a dit oui. Dans le ciel, il y a eu un oui qui a enclenché l'œuvre de salut pour les hommes. Dieu a dit un jour dans le ciel, va donc voir mon enfant, celui-là, celle-là, va donc voir, va à sa rencontre pour lui donner la vie, pour nourrir sa vie. Et de la même manière que Joseph est allé vers ses frères et même allé au-delà de la route qu'il avait à faire, de la même manière que David est allé vers ses frères qui le rejetaient, qui n'avaient pas conscience de ce qu'il était, ils sont allés. Et de la même manière, c'est une préfiguration pour moi de l'œuvre de Christ. Christ est venu vers nous. Est-ce que tu veux choisir ton avenir ? David a choisi. Il a fait le choix. Alors, quels sont les autres choix qui pourraient s'imposer à nous, à l'image de David ? La première chose, c'est... Enfin, une des choses que moi, j'ai beaucoup aimé dans ce récit, c'est le fait de choisir d'être soi. Vous savez, quand David arrive au camp et qu'il voit ce Philistin énorme qui sort devant l'armée en disant bah, « Allez-y, venez, envoyez-moi un adversaire. Et puis si je le bats, bah, la victoire est pour notre camp. » Et puis tous les autres en face qui tremblent de peur en se disant « Mais qu'allons-nous faire? Comment pouvons-nous le battre? Il est trop impressionnant. » On a toujours peur de l'adversaire. Et nous le voyons avec nos regards humains et non pas avec les yeux de l'esprit. Et quand David arrive au camp, il dit « Mais personne ne va-t-il sortir ?» Parce qu'il était choqué que quelqu'un s'oppose à Dieu et méprise Dieu. Ce n'était pas de l'orgueil, ce n'était pas de la forfanterie. C'était David dans sa position qui disait « Il est insupportable que quelqu'un ait de telles paroles concernant notre Dieu. » Alors, il est sorti. Et puis, il a posé ses paroles. Alors, c'est une, quand on lui a rapporté qu'il y avait un jeune homme qui dit, enfin, quelqu'un qui va sortir. Bon, puis voit arriver David, un jeune homme, pas forcément aguerri. Et puis, quand il le voit, il se dit, ah ouais, quand même. Je m'attendais à autre chose. Donc, il fait une proposition. Il dit à David, bon, puisque tu veux aller combattre le Philistin, je vais te donner mon armure. Je vais te donner mon bouclier, mon casque, etc. Il faut imaginer David, ce très jeune homme, affublé de l'armure de Saül. Brinque-ballant, trop large, flottante. Moi, j'aime beaucoup me représenter les choses. J'imagine David là, en se disant, mais comment je vais y aller? Alors, il fait une chose, il fait un choix. Il choisit d'être lui. Qui je suis? Un jeune berger? J'ai les armes qui sont celles d'un berger, une fronde, des pierres. Je suis moi. Alors il dit au roi, non, je ne prendrai pas tout cela. Je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Combien de fois nous essayons et nous faisons le choix de ne pas être nous-mêmes, d'être comme l'autre, ou de se dire que finalement, le mieux c'est de faire comme. Comme lui, comme elle, ou comme l'image qu'on nous représente. Être chrétien, c'est ça. On a parfois des images de ce qu'est le chrétien, un gentil monsieur ou dame qui prie, qui est avec une voix, voilà. Non, non. Être chrétien, c'est être fils et fille de roi, d'être équipé de l'esprit. Vous savez, lorsque David rejette l'armure de Saül, il était équipé de la vérité pour ceinture. Il était équipé de la cuirasse de la justice. Il avait à ses pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Il était équipé du bouclier de la foi. Et il avait le casque du salut et l'épée de l'esprit. Il avait tout cela, même s'il allait en face de Goliath uniquement avec sa fronde et ses trois pierres. Ah, j'aimerais tellement ressembler à l'autre. Ou je devrais tellement me conformer à l'image qu'on a de ce que c'est que d'être chrétien. Ah, ben non. Ce que Dieu veut, parce qu'il te voit, il voit ton cœur, c'est que tu sois toi. Celui ou celle qu'il a sauvé, c'est toi et c'est moi, tel que je suis. Être soi, et devenir celui ou celle que Dieu a créé. David est le dernier des huit frères, gardait le troupeau de son père, donc il est allé avec sa fronde et avec ses pierres. Être soi, non pas à l'image de ce qu'on imagine être chrétien. Dans le peuple d'Israël, il y avait cette réalité, c'est que la Torah, les cinq premiers livres de la Bible, qui sont le fondement de la culture religieuse juive, eh bien, c'était un enseignement fondamental pour tous les enfants juifs. Et puis, on sait que à la synagogue, en famille, à l'école, on l'enseignait, et on partait du principe qu'un enfant, juste à partir de 10 ans, devait connaître les cinq livres de la Bible, de la Torah, par cœur, Je sais pas, vous avez vu des films parfois, au moment de la bar mitzvah, où le rabbin fait monter sur l'estrade un enfant, un garçon qui va lire, etc. Donc les enfants étaient formés jusqu'à l'âge de 10-12 ans, et puis ensuite ils arrêtaient cette formation-là, et ils allaient apprendre un métier avec leur père et auprès de leurs proches. Et puis il y avait quand même les meilleurs des enfants qui étaient repérés dans cette formation, où le rabbin disait, ah bah toi, ça serait bien que tu fasses une formation dans la yeshiva pour pouvoir aller plus loin dans l'enseignement. Et puis ils restaient dans la yeshiva pour apprendre, et puis à côté des rabbins. Et puis au bout de quelques années, ils retournaient chez eux, ils quittaient la yeshiva. Mais les meilleurs des meilleurs des meilleurs étaient pris par le rabbin pour devenir eux-mêmes des enseignants. Ça, c'est de la sélection naturelle. Non ? C'est de l'écrémage. Et à 30 ans, ils devenaient des rabbins, à l'âge de Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, Jésus, il est passé comme cela. Et puis, il est allé vers Pierre et André, qui ne suivaient aucun rabbin, parce qu'ils n'étaient pas les meilleurs des meilleurs. Ils n'étaient pas assez bons, n'avaient probablement pas été choisis. Et puis Jésus est allé vers eux et a dit simplement cette parole. Suivez-moi. Ah. Ce n'étaient pas les meilleurs des meilleurs. Puis ensuite, il s'est rendu vers d'autres disciples. Il y en a un, il était inspecteur des impôts, il travaillait pour les Romains. Une honte, un scandale. Il lui a dit, suis-moi. Et Lévi l'a suivi. Il n'utilisait pas la sélection du meilleur des meilleurs des meilleurs. Il regardait au cœur, et quelle qu'ait été l'histoire, le passé, la vie de ces personnes, il les a appelés à le suivre. Aujourd'hui, Dieu fait la même chose avec chacun d'entre nous, parce que Christ a changé l'ordre des choses. Comme quand Dieu a regardé David en disant « c'est pas le plus beau, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus exceptionnel au combat, mais j'ai vu son cœur. » Et il dit la même chose pour chacun d'entre nous. Alors, j'ai mis, dit Dieu, le chemin de la vie et de la mort, le chemin de la bénédiction et de la malédiction. Choisis la vie. Seigneur, tu es venu sur notre chemin pour chacun d'entre nous. Et nous avons entendu ta voix qui s'est adressée à nous. Nous avons aussi reçu l'onction qui nous disait « Je t'ai choisi, tel que tu es. » Toi, notre Père, tu as dit « Je te veux pour fils, je connais ton cœur, je connais ton histoire, je connais ton passé, mais je te choisis, toi, tel que tu es. » Quels qu'aient été tes choix antérieurs, le péché, les choix de vie, je te choisis là maintenant pour être mon enfant. Et je t'envoie mon fils pour qu'il te montre le chemin de la vie. Nous sommes rentrés dans ce chemin où nous le commençons. Où nous y sommes depuis tant d'années. Mais toujours et encore, tu veux nous voir avancer dans cette terre promise. Pour chacun d'entre nous. Par ton esprit, Seigneur, donne-nous de pouvoir te donner un oui sans mais, un oui plein et entier, parce que nous croyons que te dire oui est la meilleure des choses qui soit pour chacune de nos vies. Maintenant, maintenant, Seigneur, donne-nous de ne pas porter au demain les oui que tu attends maintenant. Donne-nous de vouloir ta bénédiction et ta vie, quels que soient les chemins et les combats, quels que soient les géants qui peuvent se dresser sur notre route. Donne-nous de te dire oui tout de suite et maintenant. Le meilleur est en toi. Oui, Seigneur. Amen.